VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Somalie, le bilan de la fusillade qui s'est terminée ce matin à l'hôtel ambassadeur de Mogadiscio est de 24 morts, dont les assaillants qui ont été abattus par les forces de sécurité. Plus de détails avec Maïlis Egol.
L'attaque a commencé tard mercredi avec l'explosion d'une voiture piégée devant l'hôtel. Puis des hommes armés ont ouvert le feu sur les clients. Selon le ministre de la Sécurité, Abdirizak Omar Mohamed, au moins 17 personnes, dont 12 civils, 3 gardes de sécurité et 2 membres du Parlement, ont été tués dans et autour de l'hôtel. Le directeur de l'hôpital Madina à Mogadiscio a déclaré que 3 autres victimes sont mortes des suites de leurs blessures. Selon le ministre de la Sécurité, les forces de l'ordre ont sauvé ce matin 57 otages qui étaient détenus par les assaillants toute la nuit. Les Chebabs ont revendiqué l'attaque, affirmant avoir visé cet hôtel situé près du palais présidentiel et utilisé par des responsables du gouvernement. Quelques heures avant, les responsables somaliens avaient annoncé la mort du cerveau de l'attaque à l'université de Garissa au Kenya, Mohamed Mohamud alias Kuno, un ancien professeur kényan d'une école coranique. Il aurait organisé l'attaque qui avait fait 148 morts à Garissa le 2 avril 2015 dans l'est du Kenya.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a donné aux insurgés de la commune de Mugamba dans le sud 15 jours pour se rendre. Sinon, il les menace d'une répression brutale comme à Bujumbura Rural en 2010. Toujours au Burundi, plus de 300 collégiens de Ruziba dans la banlieue de Bujumbura ont été renvoyés de leur école pour avoir griffonné sur une photo du président burundais dans un manuel scolaire. Au Gabon, plusieurs syndicats et organisations de la société civile gabonaise proches de l'opposition ont annoncé aujourd'hui la création d'un mouvement citoyen pour permettre l'organisation d'élections législatives et présidentielles transparentes d'ici à la fin de l'année. Le mouvement a été baptisé Témoin Actif à l'initiative de la Confédération syndicale dynamique unitaire, notamment présente dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Outre les syndicats, des associations étudiantes et plusieurs ONG de la société civile ont signé une charte en faveur d'élections transparentes. Nigeria, le président Muhammadu Buhari a finalement renoncé à se rendre aujourd'hui dans la région du Delta du Niger, grande zone de production pétrolière dans le sud du pays et théâtre des violences perpétrées depuis plusieurs mois par un nouveau groupe armé, les Vengeurs du Delta du Niger, NDA. Aucune raison officielle n'a été donnée pour l'annulation de cette première visite dans le bastion de l'opposition, qui était considérée comme un grand pas vers un possible dialogue avec les NDA. Mais le vice-président nigérian Yemi Osinbajo a lancé ce jeudi la plus vaste opération de nettoyage jamais entreprise dans le delta du Niger, l'une des revendications de la rébellion armée Tatiana Mosso.
Les Vengeurs du Delta du Niger se décrivent eux-mêmes comme jeunes et d'un bon niveau d'éducation. Compte tenu de la complexité de leurs attaques sur les infrastructures pétrolières, il serait fort probable que certains de leurs membres soient des ex-combattants issus d'anciens groupes armés. Ils ont des plongeurs professionnels, donc un certain niveau de compétences et de connaissances dans le secteur pétrolier. Toutefois, l'organisation hiérarchique du groupe est moins connue, à l'exception d'un noyau dur composé de 100 à 150 personnes. Tout comme les anciens groupes rebelles, les NDA réclament une meilleure répartition des revenus pétroliers, une amnistie financière, le nettoyage du désastre écologique dans le Delta et des compensations pour les populations. Ils défendent également des idées séparatistes comme la création d'un État indépendant dans le sud-est du Nigeria. En 2009, le Nigeria avait signé un cessez-le-feu avec le mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger, le MEND, et avait mis en place un programme d'amnistie, de compensation financière et de formation professionnelle. Mais depuis la chute du baril du pétrole et la crise financière qu'elle a engendrée pour un des plus importants producteurs d'or noir du continent, le pouvoir peine à trouver de l'argent pour financer cet accord.
Au Niger voisin, au moins 9 civils ont été tués et 13 autres blessés mardi dans une attaque attribuée aux islamistes nigérians de Boko Haram dans le village de Yebi, près de Difa, dans l'extrême sud-est du pays. Les assaillants ont fui vers le Nigeria. En Côte d'Ivoire, le président du Ghana, John Dramani Mahama, en est au deuxième jour de sa visite officielle de 48 heures dans le pays. Abidjan et Accra se disputent une zone pétrolière offshore. Claire Morin-Gibault.
John Dramani Mahama, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, respectivement deuxième et troisième économies d'Afrique de l'Ouest, ont un litige sur le tracé de leurs frontières maritimes. Plusieurs compagnies pétrolières ont annoncé ces dernières années d'importantes découvertes dans cette zone litigieuse. L'affaire a été portée par Abidjan devant le Tribunal international du droit de la mer, qui a ordonné l'année dernière à Accra de limiter son activité pétrolière dans la zone disputée en attendant la décision finale prévue en 2017. Un mois plus tard, les deux présidents s'étaient rencontrés, à la surprise générale, le 12 mai 2015 à Genève, grâce à la médiation du Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. À l'époque, il n'y a pas eu d'avancée notable.
Et toujours en Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, notamment pour crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011, continue à Abidjan. Au deuxième jour des audiences hier, Mme Gbagbo a dénoncé un procès politique et affirmé avoir été victime d'une tentative de viol lors de son arrestation en 2011.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La CEDEAO doit tenir demain un sommet à Dakar. À cette occasion, plusieurs associations de défense des droits de l'homme expriment leur inquiétude face à la montée d'une brutale répression en Gambie à 6 mois de la présidentielle dans ce pays. Nani Talani a joint à Dakar Steve Cockburn, représentant d'Amnesty International en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.
La population gambienne a peur de s'exprimer librement. Ils ont peur d'être arrêtés, harcelés ou même torturés. Par exemple, il y avait les manifestations pacifiques qui étaient réprimées ces derniers 2 mois. Il y avait des opposants qui étaient battus par les forces de l'ordre. Il y a toujours 87 personnes qui restent en détention suite à ces manifestations. Et il y avait même une personne qui est morte en détention, qui s'appelait Solo Sandeng, qui était torturée par les forces de l'ordre. Et donc c'est un contexte très très difficile pour les partis de l'opposition en Gambie. C'est aussi très difficile pour les journalistes qui sont aussi ciblés avec les arrestations et les fermetures des organes de presse. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que le journalisme est le métier le plus dangereux en Gambie. Donc il y a beaucoup de journalistes qui fuient le pays. Au-delà de ça, il y a une société civile qui a été réprimée, qui a peur de s'exprimer. Il y avait par exemple une syndicaliste, le leader d'une association des transporteurs, Sheriff Tiba, qui était arrêté il y a quelques mois et qui est mort aussi en détention en février. Il y avait un imam en octobre qui avait présenté une pétition au palais présidentiel. Il a présenté cette pétition pacifiquement. Il a été arrêté et il reste en détention depuis 8 mois sans avoir accès à sa famille ou son avocat. Nous demandons d'abord aux autorités gambiennes de libérer les détenus politiques et de changer les lois répressives, mais aussi de demander au chef d'État de la CEDEAO de prendre les mesures plus efficaces pour s'assurer que la Gambie respecte les obligations des droits humains qu'ils ont signées dans les traités de la CEDEAO. On va leur demander d'abord ouvrir une commission d'enquête sur les répressions des manifestations pacifiques, d'exiger que les décisions de la Cour de la CEDEAO soient respectées. Et si la Gambie ne répond pas positivement à ces demandes, nous voulons que la CEDEAO considère les sanctions possibles, y compris la suspension de la Gambie de la communauté régionale.
Si la CEDEAO ne prenait pas en considération vos doléances, quelles actions comptez-vous mener?
Nous allons continuer notre plaidoyer, c'est clair. Nous allons continuer d'exposer la violation et aussi exposer la différence entre les obligations dans les traités de la CEDEAO et la réalisation de ces obligations. Nous allons évidemment travailler avec les partenaires dans différents pays pour leur rappeler que si on veut une communauté régionale qui a des normes, qui respecte les droits humains et qui ont les institutions fortes, qui créent une communauté régionale avec un respect mutuel entre les pays, il faut qu'il y ait des conséquences si un pays ne respecte pas ses obligations. Nous allons continuer à en parler d'ici aux élections en décembre, mais après ça aussi.
Steve Cockburn, représentant d'Amnesty International en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il était joint à Dakar par Nanit Talani. Et pour terminer, au Malawi, la justice a interdit à tous les sorciers et guérisseurs traditionnels d'exercer après une série d'assassinats d'albinos. Le jugement interdit également aux journaux de publier des encarts publicitaires des guérisseurs traditionnels. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.